compagnie des revues certes, mais surtout en compagnie d'Alexis Broca du magazine littéraire. Bonjour Alexis.
Bonjour Mathieu, bonjour Dominique.
8 semences pour vous, ça représente quoi ?
8 semences, ça représente mes premières années de faculté, de fac de lettres.
C'est un passage obligé.
À Nanterre, bien sûr. Ça représente aussi, bien sûr, la lecture récente du Soumission de Houellebecq, où 8 semences est érigé à lui seul comme en quelque sorte ambassadeur de la culture française. Vous vous souvenez peut-être que le personnage de Houellebecq est un spécialiste des néologismes huismaniens, que le texte intéresse beaucoup par ailleurs au processus de conversion. Le personnage de Houellebecq cherche d'ailleurs une conversion à la huismanse et ne la trouve pas. Donc tout ce que vous avez dit aujourd'hui en fait prend une résonance particulière à la lecture de lorsqu'on pense à ce roman qui a réactualisé en fait certaines problématiques huismaniennes.
Et vous, sur un plan personnel, est-ce que c'est un auteur qui compte ?
Alors, il a compté, je vous avoue que ça fait bien longtemps que j'ai pas lu, je me souviens bien de la personnalité du chanoine d'Ocre, notamment. Il a compté et il représentait effectivement pour moi cette décadence élégante, cette recherche sophistiquée d'une certaine perversité qui irait à l'encontre des canons moraux de l'époque et qui en même temps s'accompagne d'un mouvement vers cette morale de l'époque, voilà. Cette contradiction de la fin de siècle.
Alors aujourd'hui, vous continuez de nous parler du numéro 2 de la nouvelle formule du magazine littéraire avec son gros dossier sur la révolution féministe.
Voilà, en effet, fidèle à notre nouvelle ligne éditoriale visant à couvrir l'actualité avec un regard littéraire, eh bien on s'est intéressé à cette révolution qui est née, vous le savez, dans le sillage de l'affaire Weinstein, du mouvement MeToo et de sa conversion française « Balance ton porc ». Parce que cette révolution, on l'a vu avec les débats, notamment avec les débats autour de l'écriture inclusive et aussi à travers la polémique soulevée par la tribune parue dans Le Monde sur la liberté d'importuner, cette révolution, elle passe par les mots, elle passe par la pensée, par la littérature et par la philosophie, et donc c'était un matériau pour nous. Nous avons ainsi un article de la philosophe Elsa Dorlin qui nous donne les premiers éléments d'une sorte de manuel d'autodéfense féministe, où il ne s'agit plus de consacrer de l'énergie à prendre sur soi les agressions du monde masculin, mais il s'agit d'utiliser cette énergie simplement pour répliquer, pour se défendre. C'est un texte qui me rappelle d'ailleurs un petit peu les réflexions de Toni Morrison, parce qu'elle disait qu'il faut out-hurt the hurter, sur-blesser l'agresseur, quelque chose comme cela. Nous avons un entretien avec Éric Massé qui s'intéresse à la question du patriarcat et notamment à l'éventuel avènement d'une société post-patriarcale qui se cache derrière cette lutte. On a en effet le sentiment que cette lutte contre le patriarcat a, semble-t-il, remplacé la lutte des classes dans la psyché des intellectuels étiqueté subversif. Et enfin, on a un article tout à fait intéressant et le genre d'article qui amène à parler, qui a été écrit par la chercheuse...
L'article polémique, vous voulez ?
Polémique, voilà. Bon, je vais utiliser ce gros mot, polémique, de la chercheuse Sophie Rabault. Alors, elle s'intéresse aux blancs dans la littérature qui en disent long à ses oreilles et qui cacherait en fait des agressions commises par des personnages littéraires masculins contre des personnages littéraires féminins. Et elle prend l'exemple de Carmen.
Les blancs, c'est-à-dire
Les blancs, eh bien, ce seraient des passages qui seraient escamotés, dont on ferait l'acpocope, si j'ose dire.
Voilà.
Qui se constaterait en fait par les effets qui se voient sur le personnage. Elle s'intéresse notamment à la transformation de Carmen. Carmen, cette femme libre et indomptable qui, à un moment de la nouvelle de Mérimée, se soumet totalement à Don José, qu'elle espérait pourtant faire tuer.
Pourquoi ? Que s'est-il passé ?
C'est la question que se pose Sophie Rabault. Qu'a donc fait Don José pour que Carmen se soumette
ainsi ?
Vous
n'allez pas
être beau. Voilà. Et elle le rapproche. En fait, et le propos est intelligent, elle le rapproche de ce que décrit Virginie Despentes dans King Kong Theory sur la façon dont les victimes de viol peuvent se soumettre à leur agresseur. Elle a un passage assez provocant aussi sur Médée. Pourquoi est-ce que Médée, tout à coup, trahit sa famille, assassine son frère pour les beaux yeux de Jason ? Que s'est-il passé ? Pindare est assez vague sur le sujet. Il dit que Vénus est venue de l'Olympe pour apprendre à Jason l'art de se faire aimer. Sophie Rabault écrit « J'aimerais bien en savoir un peu plus sur cet art et sur les moyens employés par Vénus. » Voilà. On aborde le cas de Célimène aussi. Enfin...
Alors, on peut se poser évidemment la question de savoir si, au-delà de remplir les blancs, il faut que la littérature soit analysée, comme je crois elle souhaite le faire, sous l'angle de la violence qui n'est pas dite, mais de la violence qui est cachée. Pour Sophie Rabault, il s'agit en effet de faire émerger cette violence cachée dans toute la littérature.
En effet, elle appelle même à une action collective des lecteurs et des lectrices. Pour ma part, bon, je suis jamais pour reprocher aux grands hommes et aux grands écrivains les préjugés de leur temps. En revanche, je trouve intéressant que l'on porte un regard contemporain sur les œuvres du passé et qu'on soit capable de mettre en lumière des éléments qui passaient sans faire
qu'on ne remarquait
à l'époque,
pas
voilà qu'on ne remarquait pas qui relevait de l'implicite et qu'on souligne ce qu'ils peuvent avoir de difficile ou de contestable pour nous voilà. Et puis cette littérature par ailleurs la littérature contemporaine reflète aujourd'hui cette révolution. Vous avez ce roman de Naomi Alderman qui a été Barack Obama en a beaucoup parlé, en a fait en quelque sorte la promotion qui raconte clairement c'est une parabole fantastique qui raconte clairement un renversement de l'ordre patriarcal au profit des femmes. Et puis vous avez des romans plus anodins, qui sont moins engagés, du moins que je pense à ce texte qui s'appelle Une vie comme les autres, qui vient de paraître chez Buchet-Chastel et qui montre une société new-yorkaise où les gens se sont vraiment dégagés de toutes leurs assignations raciales, sociales, sexuelles, etc. Et où ce qui s'il reste de cela, c'est le passé. C'est le passé qui nous détermine plus que nos petites étiquettes.
Voilà. Et c'est le rôle que vous vous assignez au nouveau magazine littéraire que de dépasser les étiquettes. Merci beaucoup, Alexis Broca.
À
très bientôt.
À bientôt.